Et donc, vous parlez cette fois-ci des anges dans la mystique musulmane, plus particulièrement chez Ibn Arabi. Comme vous le savez, les anges occupent dans la pensée musulmane en général une place qui est à la fois très discrète et qui est axiale. Elle est très discrète parce que, bien évidemment, dans la cosmologie coranique, c'est Dieu qui décide de tout, c'est Dieu qui crée tout, c'est Dieu qui contrôle tout. Donc les entités angéliques assurent l'effectuation de diverses missions, mais en principe n'y interviennent pas. Tout le culte est dû à Dieu, toute l'adoration est due à Dieu, et en principe les anges ne sont simplement que des intermédiaires qui devraient être complètement transparents. Néanmoins, la fonction des anges est aussi tout à fait axiale, parce qu'au fond, comme il a été dit dans les exposés précédents, tout est une question d'intermédiation, parce que personne, bien évidemment, n'a rencontré Dieu lui-même. Si on s'adresse à Dieu, c'est toujours forcément par des intermédiaires, qu'ils soient angéliques ou non. Prenons l'exemple du Coran. Les musulmans, s'approchent de Dieu en récitant le Coran. Le Coran lui-même est une parole angélique, en ce sens que, bien sûr, le Coran, dans le dogme sunnite, est un livre éternel, éternellement auprès de Dieu. Mais le Coran, tel qu'il est récité en arabe avec les paroles arabes, résulte d'une révélation faite par l'ange, donc selon le dogme musulman, qu'il a traduite en langue arabe, parce que ce n'est pas la langue arabe qui est éternelle. La langue arabe est une langue humaine, située dans le temps, située dans l'histoire. Donc, le rôle des anges apparaît dès le début, en quelque sorte, puisque le Coran est une traduction angélique, peut-on dire, de la parole divine. Symétriquement, non seulement toute parole adressée à Dieu passe nécessairement par l'ange, de la même façon, chaque action humaine qui remonte vers Dieu passe nécessairement par l'ange. Dans la foi tout à fait commune des musulmans, toutes les actions des hommes, la moindre action des hommes est répertoriée. Il y a un ange, les traditions sont nombreuses, un ange sur votre épaule droite qui écrit les bonnes actions, un autre sur l'épaule gauche qui écrit les mauvaises, et une fois par semaine, toutes ces actions sont remontées vers Dieu. Et donc, la moindre action dans le détail est reportée par les anges. Donc, l'intermédiaire des anges est absolument omniprésent et a lieu absolument à chaque instant. Ibn Arabi lui-même, donc, est un des plus grands, on peut dire le plus grand de tous les penseurs mystiques en islam, rappelle donc cette communion. Il dit les anges nous voient, nous ne les voyons pas, mais ils nous voient à chaque moment. Pour cette raison-là, comme l'a rappelé Christian Jobé tout à l'heure, les anges font partie, croire dans les anges font partie du dogme islamique, et d'ailleurs, quiconque insulte les anges commet un blasphème qui peut être passible de la peine capitale. Cette idée de l'intermédiaire angélique, comme vous le savez, a été bien sûr développée par Henri Corbin dans plusieurs de ses volumes. Le paradoxe du monothéisme, l'homme et son ange, face de Dieu, face de l'homme, donc avec des facettes, disons, très diverses, bien sûr, mais le propos étant toujours de souligner que chaque croyant qui a l'illusion de s'adresser à Dieu directement, en fait, comme on ne peut pas penser Dieu, eh bien, il se crée une idole métaphysique, pour reprendre le terme de Corbin, il se crée un concept qu'il instaure comme étant son Dieu, et en fait, dans son adoration, il ne fait que s'adorer lui-même, que de porter un culte à une projection de lui-même. Ceci dit, le propos ici sera beaucoup plus modeste. Il répondra de façon plus simple à l'interrogation « Comment situer le rôle et le rang des anges par rapport aux croyants dans une perspective, bien sûr, de mystique musulmane ?» La question théologique des anges a été l'objet de grands débats. Plusieurs des grands théologiens de l'islam se sont débattus notamment sur la question de savoir est-ce que les anges sont supérieurs aux hommes, est-ce que les hommes sont supérieurs aux anges. Il y a de passionnants développements du grand commentateur du Coran, Fakhreddin Razi, qui énumère les différents arguments des uns et des autres. En fait, la base même de toute l'angélologie, toute la question qui va se poser ici, est résumée dans un passage, plusieurs passages coraniques, mais le premier étant la, là, le verset 30 de la deuxième sourate, donc on rentre dans le Coran, et c'est le moment où Dieu demande aux anges de se prosterner devant l'être d'argile qu'il va... Enfin, avant de se prosterner, il dit « Je vais envoyer, je vais créer un khalifa, un lieutenant que je vais envoyer sur la terre. » Et après, d'ailleurs, il va leur demander de se prosterner devant cette créature d'argile. Au moment où il annonce son projet, les anges s'étonnent et, selon les théologiens, parfois même se rebellent en disant « Mais comment tu vas créer quelqu'un qui va répandre la corruption et verser le sang ?» Donc les anges savent très bien ce que va faire Adam, ce que vont faire les hommes, et on peut dire avec bon sens qu'ils avaient raison de poser la question, puisque malgré tout, eux, ils obéissent à Dieu, ils savent bien que le but de toute création, absolument toute création, c'est d'adorer Dieu et lui seul. Quoi qu'il en soit, on voit donc que cette question est une antinomie, comme vient d'en parler Christina Siokou. Donc les anges et les hommes sont placés devant une situation qui fait qu'on sent bien qu'il y a toute une anthropologie qui est mise en cause, toute une conception du bien et du mal qui est mise en cause. C'est pas simplement, on dit le sexe des anges, c'est des questions complètement métaphysiques. On voit bien que la réponse, l'interprétation donnée à ce verset du Coran va commander toute une vision du monde. D'ailleurs, Ibn Arabi raconte que il fait allusion à un autre verset du Coran qui dit qu'à la bataille de Badr, la première grande bataille qui a opposé les musulmans aux païens, ça c'est historique, donc en 624, 300 musulmans rencontrent un millier de païens et ce sont les musulmans qui obtiennent une victoire écrasante. Et le Coran commente en disant « Oui, mais c'est parce que Dieu vous a envoyé des flots d'anges qui vous ont aidé. » En fait, dit la tradition, il y a 5000 anges qui ont aidé les musulmans. Et, dit Ibn Arabi, ces anges-là ont été envoyés par Dieu, c'était les anges qui avaient contesté la création d'Adam, qui ont dit « mais tu vas créer quelqu'un qui va verser du sang ». Eh bien, eux, ils ont dû verser du sang. Bien sûr, ils ont obéi. Et donc, ça montre que l'ordre donné par Dieu surplombe la question du bien et du mal, mais que malgré tout, ça oblige à une réflexion sur ce que c'est que la corruption, pourquoi Dieu tenait tellement à créer un être qui allait effectivement être transgresseur. Donc la question de la raison d'être de la transgression humaine est posée là. Alors Ibn Arabi, lui, élargit la question du débat très classique, est-ce que l'ange est supérieur, est-ce que l'homme est supérieur? Il dit, on peut dire que le rubis est la plus précieuse des pierres précieuses, on peut dire que la soie est le plus précieux des textiles. Mais quel sens est-ce que ça a de dire est-ce que le rubis est supérieur à la soie ou la soie supérieure au rubis? Donc il y a là deux créations, deux ordres de création qui ne sont pas les mêmes, c'est une fausse question. Ibn Arabi confirme bien sûr la supériorité des anges en tant que leur louange est ininterrompue. En cela, ils sont des serviteurs beaucoup plus fidèles que les hommes, c'est une évidence. Cependant, comme on va le voir, pour Ibn Arabi, la suréminence de l'homme est tout à fait réelle. Simplement, elle se situe sur un autre plan. Alors, sommairement, que dit Ibn Arabi sur les natures respectives de l'homme et de l'ange? Ibn Arabi parle de l'ange en tant qu'exégète, mais aussi, j'allais dire, d'une façon que lui-même affirme être expérimentale. En effet, il affirme lui-même avoir connu divers niveaux de l'être. S'il affirme qu'il n'a jamais revêtu une forme animale, ce que certains saints en islam peuvent avoir fait, il a bien revêtu celle d'un ange, parfois. Il y a des moments, dit-il, où Dieu a donc Dieu m'a instauré dans une forme angélique. Donc, ce statut angélique, d'une certaine manière, il en parle comme d'une chose qu'il a vécue. Pour Ibn Arabi, comme d'ailleurs pour toute la tradition musulmane, les hommes sont dotés d'un corps matériel qui les rapproche de tous les grands animaux et d'une âme vitale que les grands animaux possèdent également. Et en cela, les hommes sont tout à fait comme les autres hayawanat, comme ce sont des animaux. Mais en même temps, l'homme possède un esprit, un ruh, et ce ruh, cet esprit, est-il dit, est de la nature des anges, min jins al-malaika, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'angélique en l'homme par son esprit. L'homme n'est pas un ange, mais enfin, il y a quand même de l'ange en lui. Donc l'homme est à la fois animal, il est à la fois un petit peu angélique, mais surtout, il est la composition des deux, ce qui, comme on va le voir, constitue un stade beaucoup plus éminent. Les anges sont soumis aux ordres. Les anges, relève Ibn Arabi, reçoivent sans arrêt des ordres, mais ils ne reçoivent pas d'interdiction. Puisqu'ils obéissent, ils ne reçoivent pas d'interdiction, ils n'ont pas de passion charnelle, donc ils ne sont pas sujets à la tentation, ils ne sont pas responsables juridiquement, il n'y a pas de charia, il n'y a pas de loi pour les anges, ils ne sont pas mukallaf, ils ne sont pas responsables devant la loi. À la différence des hommes et à la différence des animaux qui, eux, ont des lois chacun selon leurs espèces. Ibn Arabi spécifie bien que lorsqu'il parle des anges, il parle bien des malaïkas, c'est-à-dire des anges envoyés. En effet, il existe des anges, enfin il existe des esprits, mais qui sont complètement coupés du reste de la création. Il les appelle les chérubins, donc ce sont les anges les plus proches de Dieu, les anges, dit-il, éperdus d'amour, qui ne font que chanter la louange de Dieu et qui ne savent même pas qu'Adam a été créé, qui ne s'en soucient pas, ce sont des anges ravis qui vivent dans les ravissements qui forment les plus hautes hiérarchies des anges. Mais, dit Ibn Arabi, ce dont je parle, c'est des malaïkas. Malaïka, c'est un terme donc, qui est le même qu'en hébreu, donc qui a créé à partir d'une racine qui veut dire envoyé. Les anges, dit Ibn Arabi, ce sont des ressources, ce sont des gens qui sont envoyés et leur mission, c'est d'être envoyés. L'ange n'existe au fond que par la fonction qu'il exerce, par l'envoi dont il reçoit l'ordre. Les anges qui ont reçu l'ordre de se prosterner devant Adam donc, ont reçu en quelque sorte une mission par rapport à l'homme. C'est-à-dire que l'ange n'est pas un être en quelque sorte autonome. Les anges qui sont prosternés devant Adam maintenant ont une mission par rapport aux humains et donc il y a une connivence entre le peuple angélique en quelque sorte, du moins le peuple angélique qui s'est prosterné et le peuple humain. Et la communauté humaine. Le rôle principal des anges, mais non pas le rôle unique, c'est d'être les vecteurs des discours divins. Ils transmettent les paroles divines aux prophètes, et les prophètes transmettent à leur tour ces paroles aux hommes. Quiconque croit à la véracité du discours des prophètes, donc venant des anges, eh bien celui-là, il sera bien heureux. Et celui qui n'y croit pas, qui se confie à sa raison, hein, qui croira, qui mettra d'abord et avant tout son fikr fasid, son intelligence corrompue, et puis qui ne croit pas au message des anges, sera damné. Donc on voit que le rôle des anges ici est absolument fondamental, puisque l'homme laissé à lui-même, laissé à sa pensée corrompue, ne court à la damnation, mais que, par contre, l'ange est comme un faisceau lumineux qui vient éclairer l'exercice même de sa raison. Où réside profondément la différence d'être entre les anges et les hommes? Les anges sont subtils et les hommes sont denses. Donc, c'est ça, une différence de densité. C'est important de voir que, bon, ils n'appartiennent pas à des ordres aussi différents que ça, comme on va le voir. C'est comme s'il y avait une continuité entre les anges et les hommes. Le cosmos est créé d'êtres de plus en plus denses. Chaque étape, disons, de densification représente ce que Christian Jambet proposait de traduire par écran, donc du plus haut des cieux jusqu'au plus bas des terres, il y a une série de créatures de plus en plus denses. Ce qui fait le lieu de rencontre entre ces anges très subtils et les hommes dans la densité que nous connaissons, c'est cette dimension que Henri Corbin proposait d'appeler monde imaginal, c'est-à-dire le lieu où les esprits subtils peuvent se donner à percevoir aux hommes en tout cas, qui sont capables d'une imagination visionnaire, soit à travers leur vision, soit à travers leur rêve. Donc ce monde imaginal rend visible ce qui relève de l'invisible. C'est l'apparition des intelligibles, le ma'ani, fil qalab wal mahsousa, dans des formes sensibles. C'est ainsi, par l'existence, la possible existence dans le monde imaginal, dit Ibn Arabi, que l'ange Gabriel a pu se manifester à la Vierge Marie que celle-ci a conçue. C'est ainsi que Mohammed recevait la visite de l'ange Gabriel lui-même sous une forme humaine qui ressemblait à celle du Médinois Dahya al-Kalbi. C'est cela qui permet à tous les humains virtuellement de recevoir un message angélique par l'intermédiaire des rêves. C'est ainsi que les rêves, dans l'onirocritique islamique, traduisent la connaissance sous forme de lait, ou traduisent la foi sous la forme de colonne. Donc il y a tout un langage imaginal, donc, traduit par, qui permet aux anges de s'adresser aux hommes. Dans cette optique, il est clair que donc, les anges ont un corps, et ils ont un esprit, même si ce corps et cet esprit n'ont rien qui ressemble aux formes denses. Quant à leur nature, les hadiths affirment que les anges sont créés de lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour Ibn Arabi, il s'agit d'abord de dire que les anges ont un corps simple. Ils ne sont pas créés d'éléments composés, ils ne sont pas créés d'eau et d'argile, comme Adam qui a été créé d'eau et de terre. Les anges ont un corps lumineux qui n'est pas composé d'éléments divers et qui n'est pas composé de parties. Donc c'est un corps qui n'a pas divers organes. Donc ils ne sont pas soumis à la corruption comme les hommes. Mais, dit Ibn Arabi, cette lumière est une lumière naturelle. Ce n'est pas du tout la lumière divine. La lumière divine, c'est quelque chose de complètement différent qu'on ne peut pas approcher, qu'on ne peut pas comprendre. La lumière des anges est une lumière, qui appartient au monde de la création. Voilà, comme la lumière d'une lampe, dit-il d'ailleurs, tout simplement. Hein, donc, ce n'est pas, il ne faut pas imaginer quelque chose de divin. C'est céleste, si on veut, mais ce n'est pas divin. Voilà, les anges n'ont pas un corps corruptible, mais ils sont mortels, ils mourront comme tout le monde. Et il y a des hadiths qui parlent de la mort de Gabriel, qui parlent de la mort de l'ange de la mort. Bon, une série de paradoxes. Les anges connaissent la volonté de Dieu directement, ils n'ont pas besoin de facultés rationnelles pour cela. Les hommes, eux, qui sont alourdis par la matière, ont besoin de l'intermédiaire du raisonnement, de l'intellect, tandis que les anges, ils n'ont pas besoin de mavar, ils reçoivent directement de Dieu ce qu'ils doivent savoir. Et ce qu'ils doivent savoir d'abord, donc, c'est la louange. Ils servent Dieu, mais au fond, ils servent Dieu par obligation. C'est ce qui fait une première différence, une première supériorité de l'homme, c'est que l'homme est soumis aux obligations, il n'est soumis qu'aux obligations. Dans le droit musulman, il existe des actes cultuels qui sont obligatoires, comme par exemple les 5 prières par jour, et puis il y a des actes cultuels qui sont surérogatoires, que les gens pieux peuvent accomplir s'ils veulent, ils peuvent prier plus dans la journée, ils peuvent jeûner plus en dehors du ramadan, etc. Dit Ibn Arabi, les anges ne font que des œuvres obligatoires, alors que les humains, eux, ils peuvent accomplir plus. Ils peuvent accomplir des œuvres surérogatoires, ce que ne peuvent pas faire les anges. Donc les hommes sont d'un côté livrés à l'obligation, mais de l'autre, ils ont un choix. Contrairement aux anges, ils sont dotés de irtiyar. Ils peuvent choisir de faire plus. Les anges sont des êtres donc, qui relèvent de la nature, et le Coran mentionne le fait qu'ils peuvent se disputer. Et là, on rejoint quand même la question de l'existence du mal. On en est dans le monde de la composition, les anges peuvent ne pas être d'accord entre eux. En ce sens, alors, le rôle respectif, disons, des anges et des hommes va aussi être s'articuler en fonction de cette opposition et la question des la question du oui, de l'existence du mal. Pour comprendre comment le comportement, disons, moral des hommes et des anges s'articule l'un à l'autre, il faut voir que selon Ibn Arabi, Dieu lui-même est radicalement inconnaissable. On ne peut absolument rien dire de Dieu. On ne peut même pas dire, enfin bon, on ne peut même pas penser. Donc, tout ce qu'on peut dire de Dieu, la seule chose qu'on puisse dire de Dieu, c'est ce que Dieu révèle de lui-même dans sa révélation. Ça, c'est commun à tous les musulmans. Donc, on ne connaît de Dieu que ce qu'il mentionne dans le Coran. Pour Ibn Arabi, non seulement donc, on ne connaît de Dieu que ce qu'il dit dans le Coran, mais tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par le langage. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde avec ses propres noms divins. On rejoint ici une ligne aussi, on peut trouver des cousinages avec la Kabbale. Donc c'est par son langage, et notamment par ses noms de miséricorde, ses noms de rigueur, il y en a 99, mais en fait beaucoup plus, que Dieu crée le monde. Donc le monde est un immense langage. Et chaque élément de ce qui existe dans le monde est soumis à un nom. Donc il y a, mettons, des éléments de miséricorde qui sont soumis, puisque la bonté, mettons, la maternité est soumise à un élément de miséricorde. Mais il y a aussi le nom divin de victorieux ou de vengeur, eh bien, il y a des éléments de violence dans le monde aussi. Tout ce qui écoute dans le monde est comme soumis au nom Samia, le nom l'audient. Tout ce qui émet un son remonte à un nom divin, au nom divin de la parole. Bref, tout ce qui existe a sa racine dans les paroles divines. Donc, dès lors que l'on s'adresse à Dieu dans le culte, et surtout dans la mystique musulmane, on s'adresse à Dieu avec des termes qui sont coraniques, on touche en quelque sorte, non, on n'articule pas seulement des paroles, on touche en quelque sorte la racine de l'existence. On rejoint la question du mal, pourquoi ? Parce que Dieu est unique, mais Dieu se manifeste à travers des noms qui, eux, sont opposés. Donc, il y a des noms de miséricordieux, mais il y a des noms de vengeance. Et donc, explique Ibn Arabi, les anges, tous, sont au service des noms de Dieu. Donc, chaque ange est au service d'un nom ou de plusieurs noms. Et c'est ainsi qu'ils sont dans l'opposition, parce qu'il y a des anges qui appartiennent, qui relèvent du nom le premier, d'autres le nom le dernier, ou bien l'apparent, ou bien le caché, ou bien le pardonneur, ou bien le vengeur, ou bien celui qui élève, le Morez, ou celui qui abaisse, le Mosel, ou bien celui qui nuit, le Bar, ou bien celui qui est utile, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Et donc c'est ainsi que l'action des anges est une action qui est sans arrêt en opposition les uns avec les autres. Il y a l'ange de la mort et puis il y a des anges qui accompagnent la naissance. Or, dit Ibn Arabi, tous ces anges sont parfaitement obéissants. C'est-à-dire que les anges ne sont pas mauvais, puisqu'au contraire, ils obéissent parfaitement au nom qui est le leur. Donc même s'ils sont entre eux en opposition, ils sont néanmoins des serviteurs parfaitement obéissants. Donc là, c'est la question posée pour les anges. Est-elle aussi posée aux humains ? Est-ce que les humains s'opposent entre eux tout en étant obéissants ? Là, c'est une question qu'on peut se poser aussi, mais qu'Ibn Arabi ne pose pas. Donc, la place de l'homme dans cette grammaire cosmique est un signe. Et c'est le point qui est vraiment la colonne de toute la pensée d'Ibn Arabi. C'est que si les anges, eux, servent des noms divins particuliers, l'être humain, l'homme, lui, a été créé suivant la totalité des noms divins. L'être humain comporte en lui la totalité des êtres humains. Lorsque le hadith dit, reprenant bien sûr le verset biblique, que Dieu a créé Adam selon son image, selon l'image du très miséricordieux, Pour Ibn Arabi, cela signifie cela. L'image de Dieu, c'est la totalité de ses noms, la totalité des attributs. Donc, autrement dit, l'homme, chaque homme, virtuellement, est un microcosme qui contient la totalité de la création macrocosmique. Alors, bien sûr, il va de soi que la plupart des hommes, bien qu'ayant virtuellement tous les noms de Dieu en eux-mêmes, ne les réalisent pas. C'est-à-dire qu'ils restent complètement à un niveau basique, soit ils développent tel ou tel nom divin, mais pas tous, mais la plupart, dit Ibn Arabi, restent au niveau de l'insan al-hayawani, l'homme animal, c'est-à-dire ils ont une forme humaine, mais en fait, ils ne développent pas du tout l'aspect divin qui est en eux. Développer l'aspect divin en soi, c'est la voie du soufisme, c'est la voie de la mystique musulmane. L'homme, donc, inclut tout ce qui existe dans la création. Donc, on comprend maintenant mieux le rapport qui existe entre l'homme et l'ange, puisque finalement, l'homme inclut aussi, de quelque manière, le monde angélique. Donc, je disais au départ qu'il y a de l'ange dans l'homme, mais d'une certaine manière, oui, l'ange est comme englobé dans la totalité humaine. Donc, c'est le mystère du destin angélique, et là, on peut souligner déjà le discours d'Ibn Arabi sur la chute. Dieu a créé Adam, et Adam tout de suite a chuté. Mais, explique Ibn Arabi dans une exégèse, c'est trop compliqué d'expliquer ici, en fait, il n'a pas vraiment chuté. Le verset coranique dit à Adam et Ève, ne vous approchez pas de l'arbre. Mais il n'a pas dit, ne mangez pas de l'arbre, il a dit, ne vous approchez pas de l'arbre. Et en fait, ils ont mangé de l'arbre, donc ils sont effectivement devenus éternels, et effectivement, la sortie du paradis, la descente du paradis, c'était une descente tafrif, d'ennoblissement. Donc Adam est sorti du paradis, mais il en a été anobli, sa chute était en fait une façon de pouvoir manifester la totalité des noms divins. Donc c'est le projet cosmique de Dieu qui s'ouvrait ainsi par cette chute. De ce point de vue-là, l'homme parfait, alors nous ne parlons plus des hommes particuliers, mais de l'homme parfait, le saint accompli, est plus parfait que tout l'univers. Il reflète véritablement le projet divin d'épanouissement de tous les noms. Ibn Arabi, à propos des anges, donc, raconte que, c'est un hadith assez connu, Mohammed a demandé à Gabriel, qu'il voyait sous forme humaine, est-ce que je peux te voir sous ta véritable forme, sous la forme d'ange. Et Gabriel a accepté, il lui a donné rendez-vous un soir, et quand Gabriel s'est manifesté en tant que Gabriel, le prophète Mohammed est tombé évanoui. Et quand il s'est réveillé, Gabriel lui a dit, et encore, tu n'as rien vu, parce que Séraphiel, Israfil, étant encore infiniment plus grand que moi, il décrit l'immensité de Israfil. Eh bien, dit Ibn Arabi, on sait par tradition que Séraphiel, qui est effectivement l'ange le plus proche de Dieu, il se trouvant face à Dieu, il a une telle crainte de Dieu qu'il se contracte 70 fois par jour au point de devenir grand comme un moineau. Donc Séraphiel est terrifié par la présence divine, alors que, dit Ibn Arabi, l'ange parfait, lui, ne se rétracte jamais. Donc l'ange parfait reflète la totalité de Dieu, c'est véritablement le miroir de Dieu de façon accomplie. Donc, conclut Ibn Arabi, Dieu a voulu que sous un certain aspect spécifique, Adam soit supérieur au plénum des anges, même si bien sûr le plénum des anges était plus éminent que lui, en tant que cours, en tant que conseil. Donc on peut dire, dit-il, que si la supériorité est d'être plus proche de Dieu, on peut dire qu'effectivement, par l'intellect, les anges sont plus proches de Dieu, mais dans l'absolu, il faut dire que l'homme est plus est supérieur parce qu'il est, il englobe tout. C'est ihata, il englobe tout. Alors, pour conclure par les rapports, disons, entre humains et anges, bon, tel est, disons, le cadre de la pensée d'Ibn Arabi. Maintenant, quels sont les rapports entre les anges et les humains qui sont sur la voie, on peut dire que l'ange est, au fond, l'herméneute qui explique aux croyants sur la voie ce qu'ils doivent faire. Bon, maintenant, comment dire, Ibn Arabi insiste beaucoup là-dessus. Les anges n'apportent plus de loi. Mohammed étant dernier des prophètes, d'après le dogme musulman, il n'y aura pas de nouvelles lois. Donc, qu'est-ce que apportent les anges? Quel est leur rôle, puisqu'ils n'apportent plus de loi? Alors, il y a Ibn Arabi parle de temps à autre de la connivence qui existe entre les hommes et entre les anges. D'abord, une connivence de ressemblance. Par exemple, la prière musulmane imite la prière des anges, car les anges sont en rang devant Dieu. C'est l'allusion à un passage du Coran. Et s'il y a devant les gens qui prient un seul imam, c'est parce que l'imam symbolise en quelque sorte l'unité de Dieu. Il y a une connivence qui est presque matérielle entre les anges proches et les humains. Ibn Arabi raconte ainsi qu'il y avait eu un mézène dans une mosquée à la Mecque qu'il avait rencontré et qui se nourrissait avec une nourriture qui sentait épouvantablement l'oignon, l'ail et le poireau. Et Ibn Arabi savait par tradition que cela incommode les anges. C'est pour ça qu'il est recommandé aux croyants de ne pas entrer dans les mosquées avec une haleine mauvaise. Donc, cela indique, disons, peu importe l'anecdote ici, mais cela indique que Ibn Arabi vivait dans un monde où réellement les anges participaient à la vie tout à fait quotidienne des humains. Ibn Arabi raconte comment, c'est la tradition musulmane, comment les anges greffiers qui écrivent les paroles, les actions, pardon, sur les épaules, près des épaules des hommes, comment ils attendent avant d'écrire une mauvaise action, parce que peut-être qu'il y a un regret, un remords qui va venir. Il décrit, il parle des anges de l'enfer. Dans l'eschatologie musulmane, ce ne sont pas les démons qui sont en enfer, ce sont des anges qui tourmentent les damnés, mais ce sont des anges. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont en enfer, mais ils ne souffrent pas. Ce sont là encore des serviteurs pieux de Dieu. Les anges, globalement, sont des chambellans de Dieu. Ils s'approchent des hommes et ils se servent d'intermédiaires. C'est ce que je disais au début, toute l'intermédiation passe par eux. Ils descendent sur les cœurs des hommes et délivrent des messages aux hommes en fonction de la pureté de leur cœur. Donc ils peuvent. Il y a, je veux dire, à la porte de chaque cœur humain, il y a des anges qui peuvent délivrer des messages, sauf si bien sûr le cœur n'a ni foi ni vertu. Alors, pour en venir à l'essentiel, donc, les anges viennent aider les cheminants sur la voie, hein, ceux qui sont sur la voie mystique, mais il faut reconnaître, dit Ibn Arabi, que très souvent, ils ne peuvent ne pas être perçus. Donc c'est important, le rôle, ce que je disais au début, les anges ont un rôle essentiel mais discret, c'est-à-dire que très souvent, il peut y avoir des sortes d'illuminations intérieures, des certitudes qui viennent, une consolation, un avertissement, etc., qui viennent de la part des anges, de ces anges que Ibn Arabi appelle les Mulqiyat, ceux qui envoient des messages, mais très souvent, l'ange lui-même n'est pas perçu. Donc c'est perceptions très subtiles qui tissent la vie du mystique sur la voie. Ceci dit, Ibn Arabi affirme quand même que chez les mystiques, et surtout chez les maîtres mystiques, il y a une rencontre entre Dieu et l'homme, mais qui ne passe pas par l'intermédiaire d'un ange. Lui-même le raconte, là encore, avec une expérience que lui seul a dû avoir, dit avoir eu, en tout cas, c'est qu'il lui a été donné de contempler les anges. Les anges Hafadha, c'est les anges gardiens, ceux qui surveillent les actions des hommes. Et cette contemplation lui était très pénible. Il a demandé à Dieu de ne pas contempler les anges. Car en effet, dit-il, les anges ne sont pas tournés vers Dieu. Évidemment, ils sont tournés vers les hommes. Donc les anges surveillants surveillent les hommes. Et donc, Ibn Arabi, contemplant les anges, se trouve, voit la contemplation divine barrée devant lui. Et a demandé donc à en être délivré. Et conclut-il, les anges sont là un obstacle parce qu'en fait, c'est toujours Dieu qui est à la fois celui qui contemple et celui qui est contemplé. Donc c'est malgré tout, l'origine et la fin de tout, c'est en Dieu. Et en Dieu. Alors pour conclure, les points essentiels entre rapport entre ange et humain selon Ibn Arabi, pour résumer donc, le but de toute la création, c'est la réalisation de l'homme parfait, de l'image divine que les hommes portent en eux. Et donc, chaque humain est invité à développer cette image qui doit parfaire, en quelque sorte, la création. Donc, les êtres humains sont des êtres évolutifs. Un être humain a une apparence humaine, explique Ibn Arabi. Il peut devenir aussi pur qu'un ange, il peut devenir un animal, il peut devenir un légume. Il est une pure potentialité. Un ange, par contraste, disons, un ange a toujours une position fixe. Il restera toujours un ange. La question des anges déchus n'est pas abordée de cette façon-là. En fait, ils ont une station fixe. Et la totalité, en quelque sorte, la totalité du monde est donnée par l'image de l'homme parfait tracée par Ibn Arabi, qui dit, au fond, si on regarde tout le cosmos est donc comme un grand homme, effectivement, et dans ce grand homme, il y a une âme rationnelle, Nafs-Natera, qui est le centre du cosmos, et c'est l'homme le plus parfait, c'est le prophète Mohammed. Et les autres facultés de cet être cosmique sont occupées par les prophètes, les héritiers, c'est-à-dire les grands saints. C'est eux qui occupent ces facultés-là. Et puis, les facultés animales sont occupées par les humains ordinaires. Et les anges, eh bien, les anges, le rôle cosmique des anges, c'est d'être les formes qui se manifestent dans l'imagination. Donc les hommes sont en quelque sorte, les anges sont l'imagination dans le monde entier à un niveau cosmique. Ils représentent des images. Donc cette activité imaginale, représente le plus profond de leur, le plus représentatif de leur activité selon Ibn Arabi. Bref, en un mot commençant, l'homme ordinaire peut participer de l'homme parfait en incorporant quelque chose donc de cette présence angélique. Je vous remercie.